Comme vous l'avez entendu, donc une semaine d'évangélisation s'amorce demain dans différents lieux, dont deux qui sont étroitement liés avec cette église, les Voilà-Neuve et les groupes bibliques universitaires. Et c'est en portant ma casquette Institut biblique de Bruxelles que je vous remercie profondément pour vos prières. Si vous avez à cœur de prier pour les événements des quatre centres où l'Institut est à l'œuvre la semaine prochaine, il suffirait d'aller sur le site web de l'Institut biblique de Bruxelles et immédiatement vous verriez une invitation à cliquer sur un lien qui vous fournirait des sujets de prière relatifs à chaque endroit, quatre endroits. Donc, comme ça, cela vient d'être dit, durant cette courte série de prédications en lien avec Pâques, nous nous penchons sur trois psaumes qui parlent de la résurrection de Jésus-Christ. Prions ensemble. Notre Dieu, notre Père, nous lisons dans le psaume 19 que ta parole est comme de l'or, comme le miel. Nous lisons que par elle, on est averti et que la récompense est grande lorsqu'on la met en pratique. Que tout cela soit vrai pour nous. Maintenant, nous t'en prions. Sois à l'œuvre pour nous donner de fuir l'idolâtrie et de trouver notre sécurité et notre satisfaction en toi. C'est ce que nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. C'est le propriétaire d'une sandwicherie en centre-ville qui s'exprimait ainsi il y a deux ou trois semaines. Nous ne pouvons pas continuer comme ça. Il faisait allusion à la pandémie et aux ravages qu'elle cause depuis un an, y compris pour ce qui est de cette sandwicherie, son moyen de subsistance. Cette pandémie a été hautement insécurisante et hautement frustrante pour un pourcentage élevé de la population. Qui ne voudrait pas connaître la sécurité, en particulier face à la mort, et la satisfaction au lieu de la frustration actuelle? La partie de la Bible qu'on m'a demandé de traiter ce matin nous montre précisément où trouver ces deux réalités, la sécurité et la satisfaction. Lisons le psaume 16. Hymne de David. Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. Les saints qui sont dans le pays, les hommes pieux dont sont l'objet de toute mon affection. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang, je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. L'Éternel est mon partage et mon calice. C'est toi qui m'assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Aussi mon cœur est dans la joie. Mon esprit est dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité, car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternels à ta droite. Ce psaume concerne un certain roi David ayant vécu 1000 ans avant Jésus-Christ. Comment savoir qu'elle nous concerne aussi? J'explique pourquoi. L'une des raisons pour lesquelles ce personnage David occupe une place si importante dans cette partie de la Bible, c'est qu'il est très étroitement lié à un autre roi, Jésus-Christ. Jésus-Christ provient de la lignée de David. Il est la descendance de David. C'est un fils de David, certes après la succession de pas mal de générations, mais un fils de David quand même. David a reçu une promesse selon laquelle sa descendance, son fils, allait siéger définitivement sur son trône. Il y a des éléments de ressemblance entre ce roi David et Jésus-Christ, mais il y a aussi des éléments de dissemblance. C'est un peu comme cette maquette que vous voyez qui se trouve à Mini-Europe près de l'Atomium. Il s'agit de ce qui est en bas. Et vous voyez donc qu'il y a l'hôtel de ville dans cette maquette. On la compare avec la réalité que vous voyez vers le haut. Dans cette perspective-là, David ressemble souvent, donc il remplit souvent ce rôle de maquette, si vous voulez, d'ombre, d'image par rapport à Jésus-Christ qui lui est supérieur. Si je dis par rapport à l'image en bas, cet édifice est impressionnant, ça peut en fait être vrai pour les deux. Et cet édifice est impressionnant serait plus vrai pour la réalité que pour la maquette, plus vrai pour ce qui se trouve en haut que pour ce qui se trouve en bas dans l'image. Si je dis cet édifice est impressionnant et est le lieu où beaucoup de décisions importantes seront prises, cela renvoie à la réalité, ce qui se trouve en haut. Parfois, David peut être en train de parler de lui-même, et puis il glisse vers son descendant qui lui est supérieur. On ne le remarque peut-être pas tout de suite, mais il me semble que c'est là ce qui se passe dans le verset 10 de notre psaume. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Jusque-là, pas de difficulté. David semble parler de lui-même. On peut penser que David est en train de dire que ce n'est pas à ce moment-là qu'il va mourir. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts. Mais tout d'un coup, seconde moitié du verset, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Une fois mort, la décomposition du corps n'est pas en perspective pour lui. Pour qui? Pour le bien-aimé. Là, il n'est pas exclu qu'au départ, David soit toujours en train de parler de lui-même. Mais au final, ce qu'il affirme là s'applique beaucoup plus aisément à son fils supérieur, Jésus-Christ. Et puis on se dit, tiens, même la première moitié du verset est plus vraie de Jésus que de David. La Bible explique que David était rempli du Saint-Esprit et était en train de prévoir ce que cela donnerait pour son descendant. Comme David était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis par serment de faire asseoir l'un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Je ne dis pas que ce soit immédiatement facile à percevoir, mais on peut savoir que c'est ainsi qu'il faut comprendre la chose, parce que Pierre nous l'explique ainsi dans le Nouveau Testament. Je viens en fait tout juste de citer ce que l'apôtre Pierre déclare dans Acte 2. Semblablement, l'apôtre Paul, dans Acte 13, déclare en rapport avec ce psaume, « Or, David est mort et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Jésus est revenu de la mort et au final, il faut reconnaître que le verset 10 de notre psaume prévoit cela. Et le lien avec nous, alors ? Eh bien, grâce à la mort et la résurrection de Jésus-Christ, nous pouvons être en règle avec Dieu. Par nature, nous ne vivons pas pour honorer Dieu. Nous vivons pour nous-mêmes et notre vie déplaît à Dieu et appelle son juste jugement. Mais si nous nous tournons le dos à notre rébellion, si nous nous soumettons à l'autorité de Dieu, si nous recevons le pardon de nos fautes obtenues par la mort de Jésus-Christ, nous entrons en relation avec Dieu. Et nous ressemblons à David de par cette relation. À bien des égards, nous ressemblons même au fils de David de par cette relation. Nous pouvons entretenir cette relation avec Dieu en marchant sur les traces de David et du fils de David. Nous pouvons soigner, promouvoir, chérir cette relation avec Dieu grâce à ce psaume. Et, en l'occurrence, bénéficier de ce psaume en particulier, c'est jouir de l'antidote à la crise sanitaire actuelle. Voici la sécurité et la satisfaction que tout le monde recherche. Soulignons-le d'abord, cette sécurité et cette satisfaction ne s'appliquent qu'à celles et à ceux qui sont soumis au Seigneur. Les versets 1 et 2, « Garde-moi, ô Dieu, car je cherche en toi mon refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, tu es mon souverain bien. » Lorsque David désire être protégé, cela peut présupposer qu'il est face à des ennemis qui menacent sa vie. À la lumière de la révélation de toute la Bible, la protection majeure dont nous avons besoin est face à ce que notre rébellion contre Dieu entraîne, la mort, oui, et la condamnation en enfer. Et seules les personnes qui puissent dire « Tu es mon Seigneur » sont ainsi protégées. Voilà la sécurité, verset 2. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon Seigneur » commencent à dire aussi « Tu es mon souverain bien » aussi au verset 2. On trouve la satisfaction en Dieu. Et ces mêmes personnes qui déclarent « Tu es mon souverain bien » sont remplis d'affection pour le peuple de Dieu. Verset 3. Si l'on prend plaisir en Dieu, on prend plaisir dans son peuple. Les moments que l'on passe en petite réunion de prière en semaine ou sur Zoom après une rencontre telle que celle-ci ne sont pas anodins. On s'intéresse au bien-être des uns et des autres au sein de la famille que constitue l'Église. Si jamais on voulait vivre la vie chrétienne en vase clos, quel mauvais signe pour sa santé spirituelle. Si jamais quelqu'un se disait croyant et voulait se contenter de l'église sur le canapé post-pandémie, on pourrait s'interroger sur le degré de l'affection à l'égard des autres croyants au sein de l'église que cette personne aurait dans le cœur. Donc, la sécurité et la satisfaction passent par une allégeance vis-à-vis de Dieu et une solidarité vis-à-vis du peuple de Dieu. Par opposition à quoi ? Le verset 4. On multiplie les idoles, on court après les dieux étrangers. Je ne répands pas leur libation de sang. Je ne mets pas leur nom sur mes lèvres. On multiplie les idoles et les peines. Où est-ce que des personnes se tournent pour connaître la sécurité et la satisfaction. Certes, on peut penser à l'alcool, aux drogues, à la pornographie, mais pas seulement. L'argent, les diplômes, la carrière, le standing dans la société, le nombre d'amis qu'on a sur Facebook, ses convictions théologiques, la bonne santé, les fêtes, la maison, les vacances au soleil, la famille, un conjoint, des enfants. Ces choses sont parfaitement neutres, voire saines en elles-mêmes. Des dons de Dieu, mais elles ne peuvent pas remplacer Dieu. Si nous recherchons notre sécurité là, alors c'est la folie, d'après ce psaume. Si nous ne recherchons pas notre sécurité et notre satisfaction en Dieu, nous recherchons notre sécurité et notre satisfaction dans des idoles. Face à la mort, qu'on a particulièrement côtoyée ces 12 derniers mois, beaucoup de personnes ont mis leurs espoirs dans un vaccin, la perspective de retrouver les circonstances qu'on connaissait auparavant. Mais je vous rappelle que même avant la COVID, un quart des travailleurs belges étaient insatisfaits au travail et la moitié insatisfaits de l'ambiance au travail. L'album de Black M, L'Éternel, Éternel, Insatisfait, Éternel, Insatisfait, remonte à la période pré-pandémie. Les personnes de ma génération peuvent traduire en pensant à un chant des Rolling Stones qui parle de l'incapacité à trouver la satisfaction. Ces personnes qui voudraient connaître la sécurité et la satisfaction recherchent des bénédictions de Dieu, mais tout en faisant le court-circuit de Dieu lui-même. Dans le monde, c'est ce qu'on trouve, mais parfois aussi dans l'Église. Si nous pouvons nous mettre à l'écoute de David, nous allons comprendre que rechercher la sécurité et la satisfaction ailleurs qu'en Dieu, c'est la folie. Essayons maintenant de mesurer le degré de satisfaction qu'on peut trouver en Dieu dans la section suivante, les versets 5 et 6. L'Éternel est mon partage et mon calice, c'est toi qui m'assures mon lot, un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Voici le langage du partage du pays promis aux tribus d'Israël. Vous voyez la carte. Recevoir une partie de la terre promise correspondait à un plus grand privilège que devenir propriétaire d'un terrain en Belgique en 2021. C'était le moyen de subsistance d'ailleurs. On peut imaginer les attitudes de part et d'autre à l'époque, l'excitation. Est-ce que nous allons recevoir une partie de la vallée de Jisréel avec son sol fertile? Mais vous voyez à la carte qu'il y a une tribu qui ne figure pas. Où est le lot qui échoit à la tribu de Lévi? Les Lévites auraient en principe pu raisonner ainsi. Oh, mais c'est dur pour nous. Nous n'avons pas de terre, pas de moyens de subsistance. Pour notre survie, nous sommes tributaires de l'obéissance des autres tribus. Et est-ce qu'ils vont être corrects en livrant leur dîme pour que nous puissions avoir de quoi se mettre sous la dent? Et vous savez ce qu'était le partage, le lot, l'héritage des Lévites? Oui, ils n'avaient pas de territoire, mais ils avaient Dieu. Nombre 18, verset 20, entre autres en arrière-plan ici. Vous vous rendez compte? Oui, ils devaient s'en remettre à la providence de Dieu pour leur subsistance. Oui, ils étaient dépendants à l'égard de Dieu, mais c'était un privilège. Ils jouissaient de cette relation privilégiée avec Dieu. Ils étaient consacrés au service de Dieu au sein du tabernacle. Leur partage, leur lot, leur héritage, c'était Dieu. Et ce langage est aussi employé dans l'autre sens, dans Deutéronome 32, pour parler du regard favorable que Dieu porte envers son peuple. Je cite, « Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. » Vous voyez que ce langage connote relation privilégiée. Et donc, qu'est-ce que cela donne pour les Lévites d'avoir cet héritage ? Là, verset 6, des délices, un héritage délicieux, des délices. Or, David n'était pas un Lévite. Le langage est figuré ici pour parler de la qualité, justement, de la relation intime, de proximité avec Dieu. David était souvent en mouvement et dans l'impossibilité justement de s'installer dans la terre promise. À un moment donné, il déclare « Il me chasse aujourd'hui pour m'exclure de l'héritage de l'Éternel en me disant va servir des dieux étrangers. » Mais en fait, au regard de ce psaume, il peut dire qu'au sens le plus profond que son héritage, c'est Dieu. Dieu est aussi le calice de David, verset 5. Calice ou coupe, il s'agit dans les Écritures d'un symbole du destin. Cela peut être négatif, une coupe de la colère de Dieu. Cela peut être positif, une coupe de la bénédiction de Dieu. Ici, l'image est positive. Pour David, Dieu est sa coupe. Et cela veut dire que Dieu pourvoit à ses besoins. Et même au-delà, il y a un psaume qui fait pendant au psaume 16 à l'intérieur de cette partie du livre des psaumes, à savoir le psaume 23, bien connu. Et là, David affirme, « Ma coupe déborde. » Et ce qui est vrai pour David l'est pour nous également. Nos circonstances sont analogues. Nous ne sommes pas encore dans le pays promis, la nouvelle création. Notre héritage nous est réservé dans les cieux, mais nous ne le possédons pas encore. Mais nous avons Dieu. Nous avons toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quel délice! Tout cela est possible parce que Jésus-Christ, lui, a bu la coupe de la colère de son Père, la coupe qui aurait dû tomber sur nous, la coupe de la malédiction. Combien nous sommes dans l'erreur lorsque nous pensons que l'herbe est plus verte ailleurs. Mais non, ça c'est la voix de l'ennemi, ça c'est le mensonge. Dieu est notre Seigneur, notre souverain bien, notre partage, notre calice, notre lot, notre héritage, nos délices. Mieux ailleurs ? Quelle idée ! Ce terme clé pour le psaume délices, oui, pensons à ce qui nous procure un plaisir délicieux, tel chocolat, tel rosier, telle symphonie. Pensons aussi en termes de relation. Les délices que la compagnie de Bora procure pour Serge et inversement, et idem donc entre Pedro et Laure et ainsi de suite. Mais maintenant, augmentons l'intensité et la profondeur et orientons tout cela vers Dieu. Pour ma part, je pense que durant les trois premières décennies de ma vie chrétienne, j'étais plus fort pour remercier Dieu pour ses bienfaits, mais plutôt faible pour me délecter de Dieu lui-même. Trouver ma satisfaction en lui, m'émerveiller de sa personne. Ce psaume parle des deux, les délices proviennent de lui, mais et se situe en lui. C'est lui qui est notre part et notre coupe. C'est lui qui est notre souverain bien. C'est lui qui est notre Seigneur. L'adorer et le servir, c'est notre joie. Voilà la véritable satisfaction. Et on commence à goûter aux délices de Dieu. Certains pourraient se dire, mais les idoles, ça ne me tente plus. Ne nous berçons pas d'illusions. Gare à nous si nous nous estimons en dehors du danger de la séduction provenant des idoles. Même après 35 ans de vie chrétienne, je constate avec peine que le péché revient au galop. Comment faire face à cela? Eh bien, il faudrait commencer par reconnaître qu'on a affaire à un combat, que l'idolâtrie nous guette toutes et tous et à tout moment. Mettons, illustration, que regarder la télé le soir soit une idole pour toi. Regarder la télé le soir n'est pas interdit par les Écritures. Mais mettons que ce soit une idole pour toi, que tu dois avoir ça à la fin de la journée. Par la grâce de Dieu, un beau soir, tu parviens à garder la télé éteinte pour passer du temps en prière, pour passer un coup de fil à une sœur au sein de l'Église qui a besoin de ton encouragement ou ton aide. À la fin de la soirée, que te dis-tu? Ah, si seulement j'avais passé la soirée à regarder la télé. Oh, prier. Oh, aider cette dame. Mauvaise décision. Quelle soirée nulle. Non. Que te dis-tu? Quel délice. Passer du temps en présence de Dieu. Plaire à mon maître en encourageant une sœur. Oui, c'était un combat. Oui, c'était un véritable effort. Oui, un sacrifice. Mais quelle joie et quel privilège. Les délices se trouvent auprès de Dieu, non pas auprès de l'idole. Le bonheur qu'apporte l'idole est fugace et superficiel. L'idole nuit à l'âme. Et du fait de courir après l'idole, on multiplie les peines parce que le péché gâche les relations au plan vertical et au plan horizontal. En fin de compte, c'est l'inverse de la satisfaction. Et concrètement, comment alors se prémunir contre l'idolâtrie? Oh, la lutte va continuer jusqu'à la mort, jusqu'au retour de notre Seigneur. Mais ce psaume évoque le souci qu'on ne chancelle pas. Et les armes, on les voit dans les versets 7 et 8. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même, mon cœur m'exhorte. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Comme David, nous devons nous mettre au bénéfice des conseils de Dieu et avoir Dieu constamment sous les yeux. Comment est-ce que Dieu nous conseille? Eh bien, dans d'autres psaumes, on trouve « conseil » en parallèle avec « parole ». Et dans cette section du livre des psaumes, il y a un psaume au centre du groupe, il s'agit du psaume 19, qui célèbre la parole de Dieu. Comme de l'or, comme le miel. Elle est délicieuse. Par cette parole, on est averti, lisons-nous dans le psaume 19. La récompense est grande lorsqu'on la met en pratique, lisons-nous. Comment as-tu été exposé à la parole de Dieu durant les 6 jours qui viennent de s'écouler? Et qu'est-ce qui est prévu pour les 6 jours qui viennent? Il est possible de profiter, par exemple, du plan de lecture de la Bible. Donc, proposés par l'Église. Et puis, avoir Dieu constamment sous les yeux, verset 8, il me semble que cela parle de la prière. Être constamment en train de se tourner vers lui, l'avoir à sa droite, lisons-nous, réévoquer devant lui ce que lui a révélé dans la parole, exprimer notre dépendance à son égard. Tout au long de la journée, n'est-ce pas? Verset 8, constamment. Vivre constamment en présence de Dieu, ça ne va pas de soi. Ce n'est pas une loi, mais une bonne pratique qui facilite la mise en pratique du verset 8 et de commencer consciemment la journée par la prière et la parole. Moi, je n'ai pas un mandat biblique pour dire « Oh, il faudrait que ce soit au moins une demi-heure. Alors, ce matin, ton culte personnel, combien de chapitres de la Bible? Combien de minutes en prière? » Non, non, non. On ne joue pas ce type de jeu. Mais on doit être engagé dans la lutte pour plaire à notre Seigneur et pour éviter les idoles. Et une bonne stratégie à cette fin est de s'orienter dès le début de la journée dans la bonne direction. L'un de mes mentors disait que ça changeait tout pour lui que de commencer la journée par avoir Dieu dans sa ligne de mire en quelque sorte. Voici comment le premier directeur de l'Institut biblique de Bruxelles raisonnait. Quand je me lève à l'aube du jour nouveau, je m'éveille pour l'entendre me parler et pour lui parler. David savait bien cela quand il a dit « Je m'éveille et je suis encore avec toi » dans le psaume 139. Oh, combien ces premiers moments d'éveil sont importants. Les vivre avec Christ nous fera peut-être gagner des heures de notre journée. Nous ne devons pas revenir plus tard pour confesser que nous avons agi selon la chair au lieu de vivre selon la foi en Christ. Fin de citation. Nous avons besoin d'être stables, verset 8, face au danger de l'idolâtrie. Cela vient grâce à la parole mise en pratique et grâce à la prière. Je pense à une dame dans le sud de la France. Elle a 93 ans, mais a le même âge que moi en termes de nombre d'années de vie chrétienne. Et on dirait peut-être qu'elle a une foi simple. Mais si je devais résumer sa vie en quelques mots, je dirais solidité, persévérance, joie, évangélisation, amour et, pas de surprise, parole et prière. Je ne pourrais pas démontrer cela scientifiquement, mais il me semble qu'il y a une corrélation entre ces pratiques régulières au début de la journée, dans la parole et en prière, et sa stabilité en tant que croyante. Et sa joie. Ce qui nous amène à la dernière partie. Connaître les délices en Dieu, cela veut dire connaître l'allégresse dès maintenant. Verset 9. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse. Et mon corps repose en sécurité. Oui, sécurité pour le corps aussi, parce que Jésus a remporté la victoire sur la mort. Et cela vaut, au final, pour nous croyants aussi. J'ai prié afin que ce message encourage les seniors de notre Église. On va citer l'apôtre Paul, d'abord dans Romains 8. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels, par son esprit qui habite en vous. Jésus, autre citation de L'apôtre Paul a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Ô mort, où est ta victoire ? Différentes générations de chrétiens ont parlé de l'art de mourir. Des gens de l'extérieur ont parfois commenté le fait que les chrétiens savent bien mourir. Est-ce qu'ils diront cela de nous ? Est-ce que nous sommes en train de bénéficier de la pandémie pour nous préparer à la mort ? La sécurité face à la mort est certaine. Un nouveau corps parfait nous attend. Paul encore. Nous serons changés. Il faut que ce corps corruptible revête incorruptibilité et ce corps mortel revête l'immortalité. Et par-delà, la mort, plénitude de joie. Verset 11, délice incomparable. Il y a bien entendu un lien entre les délices que nous connaissons maintenant et les délices éternelles. Mais les délices éternelles sont d'un autre ordre de grandeur. Lorsque j'étais jeune croyant, j'ai entendu un enseignant suggérer que ce que nous avons maintenant correspond à 3 ou 4 % de ce que nous aurons. La satisfaction complète n'appartient pas à ce monde, entre autres, parce que l'idolâtrie du cœur continue à nous guetter. Mais quelles délices sont en réserve pour nous. Et qu'est-ce que nous avons en tête lorsque nous pensons à ces délices éternelles ? Pour certains d'entre nous, encore une fois, il faudrait moins penser en termes de chocolat et plus en termes de Dieu lui-même. À la fin du psaume suivant, David revient sur cette thématique. Psaume 17, verset 15. « Pour moi, dans la justice, je verrai ta face. Dès le réveil, je me rassasierai de ton image. » Ultimement, nous serons dans la justice. Nous serons quittes de tout péché et en mesure de nous tenir en présence de Dieu. La satisfaction et la joie se trouvent auprès de Dieu. Nous serons rassasiés par le grand Dieu que nous adorons. Et cela, à tout jamais.